compte à chaque fois de l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose pour moi qui est important. C'est la musique, c'est, ça a toujours été une manière de véhiculer mes émotions en premier lieu. Je sais que Bill Evans l'a fait aussi beaucoup à la perte de son frère, tout un tas de choses comme
de
ça.
De sa femme aussi.
Voilà, de sa femme. Bon voilà, je me retrouve vraiment dans la musique et dans la mélodie. Voilà, pour moi, c'est là que je fais passer les émotions. Il y en a d'autres qui écriraient, je sais pas, qui feraient tout un tas de lettres ou de feuilles dans un cahier. Et moi, en fait, c'était ma manière d'exorciser un petit peu la douleur, même si la douleur reste et restera. Mais voilà, sur le moment, en tout cas, ça m'a permis de mettre de la musique sur une espèce de torpeur qui y a eu, quoi. Voilà.
Ben, je propose qu'on écoute tout de suite. Je suis vraiment désolé, hein, c'est une catastrophe. Le premier morceau du... Alors, si, quand même, juste avant, excuse-moi, Franck. Il faut dire deux choses pour nos auditeurs, c'est que le disque est composé d'un disque en duo.
Alors, le premier disque, c'est en duo avec Stéphane Belmondo et aussi en trio avec Thomas Brunnery à la contrebasse. En fait, j'ai voulu faire un album qui soit... Qui commence assez doucement, entre guillemets, enfin en tout cas des acoustiques, évidemment, je voulais que ce soit acoustique. Donc en duo, il y a des trios, il y a un quartet aussi avec Johann Schmidt, et ça finit aussi avec David Lins qui est venu sur 4 titres poser sa voix et aussi écrire des textes par rapport à la situation. Voilà. Donc c'est regroupé sur ces deux albums, tout ça.
Ok, bon, on va écouter le premier du premier disque. Qui s'appelle No More Cheese.
I still taste the dew on the tip of my tongue. The first gleam of dawn still appears before long. The chirping of robins, their pitch sharp and strong. Challenge for one since fate is seldom wrong. And yet no more as she is. The daily routine, blissful, cuts like a knife. My compass confused, but all my morals still thrive. At 200 miles an hour before I dive, my heart is a thumping, still honoring life, and yet no more she is. I heard it said sorrow is longing to stay, remainder of dreams too soon taken away. To darkness itself I refuse to fall prey. Seconds, minutes, days, months, years taken away, and yet no more she is. Presence of grief, sometimes spite for it all. At ceilings, up I now stare, winter to fall. My soul a shake, needs very little to stall. Some days, life itself screams, I rise, not to crawl. And yet, no more she is. Yet no more she is.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 avec Thierry Maillard, pianiste chef d'orchestre. Alors, j'ai relu tellement à la rue que j'ai oublié le dossier de presse, mais j'ai relu d'anciens papiers Il y avait un petit mot de Lionel Eskenazi qui disait que vous étiez particulièrement prolifique, presque boulimique en termes de projet. D'où ça vient cette urgence?
Ben, c'est une bonne question auquel je ne saurais répondre, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. En fait, j'ai la chance de pouvoir le faire, donc c'est vrai que j'ai du mal à aussitôt qu'un projet est terminé, j'ai presque un coup d'avance, comme on dit. Et ouais, je suis vraiment sur un projet par an, c'est vrai, depuis maintenant beaucoup d'années, parce que là, je vais mine de rien arriver presque à mon 30e album. Donc c'est quelque chose que voilà, quand j'ai monté mon label aussi il y a 10 ans, ça m'a aussi permis de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et du coup, toutes mes influences, tout ce que, comme effectivement j'adore écrire la musique, j'adore composer, à chaque fois que j'ai des idées, je me dis je vais pas laisser ça sur un bout de papier dans un tiroir. Donc s'il y a moyen de le mettre sur un support, autant en profiter et en faire profiter le public. Donc voilà.
De notre côté, on va pas s'en plaindre. Oui, cette expérience a quand même assez terrible. Alors, j'étais toujours un peu. C'est un peu compliqué parce que j'ai dans mes connaissances des amis qui ont eu la même expérience avec des enfants plus grands, voire adultes. Je sais que c'est un peu difficile de parler de ça, mais ça, finalement, ça fonctionne un peu aussi comme une thérapie.
Pour moi, en tout cas, ça l'a été, oui. C'est clair que, tout de suite après la tragédie, c'est été pour moi une manière de entre guillemets, sauver ma peau, quoi, par rapport à la situation. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu les musiques... J'ai eu un court moment où je me suis dit j'arrête tout. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, la musique me permettrait justement de pouvoir aussi me donner aussi le courage de pouvoir continuer à faire ce qu'il faut pour mes deux autres filles. Parce qu'il y en a deux autres aussi qui sont là, quoi. Je suis pas tout seul, donc voilà. Donc ça a été pour moi une manière de pouvoir exorter justement ce drame... plus facilement que si je ne l'avais pas fait.
Mmh. Elles ont quel âge ?
Elles ont 6 et 9 ans.
Ah, c'est des petites.
Voilà, justement, donc elles ont besoin d'un soutien de chaque instant.
Ok, bon, on est là pour en parler et puis pour écouter. Alors j'ai une question qui est toujours la même question et que je pose à tous les musiciens. Mmh. Elle vaut ce qu'elle vaut et chacun a une manière de répondre. Et c'est valable pas uniquement pour cet album, mais je dirais pour tous. Qu'est-ce que ça fait de se réécouter?
Alors déjà, je réécoute pas tous mes disques. Je l'écoute pendant l'enregistrement. Bon, il faut dire aussi que moi, j'adore le studio, la production. Donc j'adore être en studio d'enregistrement et voir le projet se réaliser, naître et entendre la musique. Donc là, pour moi, à chaque fois que je fais un disque, c'est entre guillemets toujours le meilleur, c'est toujours le top, parce que c'était ce que je venais d'écrire et que c'est ce que je voulais entendre. Mais après, je me réécoute pas, sauf celui-là, c'est la première fois que j'écoute depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a été, on l'a enregistré au mois de décembre dernier. Mais c'est vrai que on peut dire que c'est le disque que j'ai le plus écouté sur tous mes disques. Parce qu'aussi, par rapport à ce qui se passe, c'était une manière aussi de me plonger aussi dans cette histoire et quelque part de peut-être créer une espèce de lien sans qu'il y en ait, mais quelque chose d'un peu intemporel comme ça, qu'on sait pas trop ce qui se passe, et à travers la musique c'est un peu difficile à expliquer, mais sinon je suis pas du genre à écouter mes disques et à me dire c'est super. Voilà. C'est marrant parce que cette discussion, je l'ai eue, j'ai déjeuné ce midi avec Giovanni Mirabassi, et justement on parlait de ça, et parce qu'en fait il m'a expliqué qu'il avait réenregistré son disque parce que justement il avait toujours détesté son premier disque qu'il avait enregistré il y a 25 ans, et que là, il était très très fier de lui sur celui-là. Donc,
voilà. Oui, oui, il était il y a 15 jours dans les studios.
Ouais. Et du coup, ben, voilà, c'est marrant qu'on se parle de ça, parce qu'il me disait, ben, celui-là, je l'écoute avec plaisir. Et on peut dire que moi, c'est un peu la même chose. Il n'y a que quelques disques que j'ai écoutés vraiment beaucoup, les big bands, depuis quelques années en fait. Mes productions depuis quelques années, je les écoute. On va dire que c'est beaucoup plus... j'ai certainement beaucoup plus mature et beaucoup plus sûr à tout niveau, y compris au niveau de la composition, donc que les tout premiers disques. Bon, il y a peut-être des choses, comme on dit toujours, que j'aurais pu éviter, et voilà quoi. Et bon, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme le vin, avec l'âge, on dit que c'est meilleur, donc bah, voilà. On va dire que pour les compositeurs, c'est peut-être la même chose, ouais. Sauf quand on s'appelle Mozart, mais c'est pas mon cas, donc voilà.
Bah, oui, enfin bon, moi, je suis pas un grand spécialiste ni fanatique de Mozart, mais enfin bon, il y a d'autres compositeurs que je... Non, c'est ce que je pose toujours la question à tous les musiciens. Certains me disent, ah oui, non, ce que je réécoute pas, ce que j'entends toujours, le pétouille, l'erreur, le truc que j'aurais... C'est un truc un peu récurrent. Rares sont ceux qui disent, si, je me réécoute...
Ouais, non, mais après, c'est pareil, ce disque aussi, ce que je voulais, c'était vraiment quand je l'ai composé, je l'ai écrit vraiment d'un seul trait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Parce que des fois, quand on compose des morceaux, on peut revenir dessus, arranger, changer des choses et tout ça. Là, c'est vraiment tel que je l'ai écrit. D'ailleurs, le disque, en fait, j'aime bien faire ça, il se déroule dans l'ordre dans lequel on a enregistré l'album pendant les 3-4 jours, les 3 jours qu'on a passé en studio. Donc ça a été vraiment... j'ai mis exactement l'ordre dans lequel on l'a fait. Et c'est pareil, en studio, il n'y a pas eu de recording. Enfin, je voulais vraiment faire un truc live. Et plus ça va, là, depuis quelques mois, on va dire, et plus je suis dans cette espèce de trip, comme ça, de ce qu'on faisait il y a plus de 30 ans, quand il n'y avait pas toutes les machines d'aujourd'hui. Ouais. Je me souviens de mon tout premier disque que j'avais enregistré à New York. Bon, bah, c'était à bande et il n'y a pas de recording, quoi. Donc, mais aujourd'hui, comme tout doit être... nivelé, léché, lissé. Ouais. Donc du coup, bah voilà, c'est un peu la course, comme on dit. Chacun essaye de. C'est des fois un peu dommage, je trouve, pour le sujet, c'est-à-dire qu'on se donne plus le droit de laisser éventuellement une erreur qui pourrait parler à certaines personnes quand ils l'entendent. Quand on écoute des disques de Miles Davis, bah il y a des fois c'est faux, des fois il y a des pains, comme on dit. Aujourd'hui, il y aurait plus aucun musicien qui laisserait ça. Et bon, on dit rien parce que c'est Miles Davis, mais je trouve que c'est dommage qu'on ait perdu un peu ça. Ouais. Et moi, du coup, avec mes productions, là, aujourd'hui, j'essaye de retrouver ça avec les musiciens. Pareil, j'évite de répéter aussi, maintenant. Là, pour ce disque-là, je leur amène les partitions. Et en fait, c'est l'instant qui m'intéresse, c'est de voir ce que chacun donne. Et c'est vrai que là, ça a été miraculeux parce que aussi bien Stéphane, surtout Stéphane, à trompette et au bug, il y a pas beaucoup de disques où c'est aussi beau et aussi bien joué. Pourtant, Dieu sait qu'il a une sacrée carrière. Donc voilà, donc c'est ça qui m'intéresse en fait. Aujourd'hui dans la musique, c'est de mettre sur ce support quelque chose qui soit vraiment d'abord de l'émotion avant le texte.
Non, mais moi je suis entièrement, mais alors à 100% d'accord. D'ailleurs, j'ai toujours dit ici que j'ai, même si la qualité de certains enregistrements était moyenne, voire médiocre pour certains, mais je trouve qu'on sait en live, il y a justement c'est pas un risque, parce que je veux dire, on n'est pas en guerre, mais voilà, on peut faire le risque d'avoir un pain, une fausse note, un doigt qui manque. Même Bill Evans, s'il y a des enregistrements où il y manque un doigt, bon, à la limite, on s'en fout. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que ce côté... lissage, en fait, dénote pour moi une société qui va vers une absence de risque, en fait, d'une certaine manière.
Ouais, mais ça va avec la société, avec l'évolution, mais même dans les jeunes générations, ça se voit. On voit les jeunes musiciens d'aujourd'hui qui font du jazz, c'est la technique d'abord, Moi, j'ai une anecdote, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je faisais, Au tout début, j'avais 17-18 ans, quand j'ai monté mon premier trio, on parlait déjà à l'époque de la Beer Club, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de classe de jazz, ça n'existait pas, il y avait le CIM à Paris.
Oui.
Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village en France, il y a une classe de jazz, il y a une école, bah moi je sais ce que mes filles y sont, enfin, j'ai une fille qui fait de la flûte, mais aujourd'hui, c'est un truc de fou, quoi. Mm. Bon, Internet fait qu'aujourd'hui, moi j'ai des souvenirs, parce que j'étais fan de Bill Evans, après avoir fait beaucoup de classiques. Et ben pour entendre du Bill Evans, il fallait que je trouve chez les disquaires des cassettes VHS de concerts qui c'était pas sûr de pouvoir les avoir ou de les voir. Aujourd'hui, carrément, il y a carrément des cours sur Internet. Vous pouvez voir carrément ce qu'il joue, tel solo, tel truc et tout. Donc bon, c'est bien parce que ça fait des espèces de bêtes de cirque pour moi, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui me dérange, c'est qu'ils jouent tous. Ils jouent tous monstrueux. C'est-à-dire que moi, en plus, depuis ce qui s'est passé, je scrolle beaucoup sur Internet, ça me permet d'évader ma tête, et je tombe sur des musiciens, je trouve ça, il y a des fois, j'ai envie de leur dire, mais à quoi ça sert, quoi? Ils reprennent des trucs, des solos de Intel, de machin, de trucs et tout. Ils vont tous dans des écoles, alors ils apprennent l'harmonie, mais à la fois, pour revenir à l'histoire de la Berklee, j'ai pas voulu y aller, parce qu'en fait, déjà à l'époque, on disait tous les pianistes, ils jouent tous pareil, parce qu'ils ont appris avec un ou deux profs, qui évidemment leur apprend des bases harmoniques et tout, et donc du coup, bah, ils jouent tous avec un phrasé, à l'époque c'était bebop, ils jouent tous bebop, quoi. Et moi, déjà à l'époque, je me rappelle quand j'avais rencontré Petrucciani, on en avait parlé, et ça m'avait vraiment marqué, parce que je me disais, bah voilà, Petrucciani, il a un message, il a un discours, il a quelque chose. Bill Evans, il était reconnaissable. Faites reconnaître les musiciens. Mmh. Et aujourd'hui, je vois dans les jeunes pianistes, là, qui débarquent, là, ils ont tous 18, 19, 20 ans, ils jouent, mais c'est monstrueux ce qu'ils font. Moi, je suis admiratif de ce qu'ils font et de la maturité, du coup, parce qu'ils ont tellement pris de tout ce qu'il y a sur Internet qu'à 20 ans, ils ont la maturité que nous, on avait quand on avait 40, 45 ans. Donc pour ça c'est super, mais je me dis après si on gratte un peu et dans le fond, quand ils enregistrent un disque, qu'est-ce qui reste en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire et quoi dire. Et c'est un sujet qui depuis une dizaine d'années dont on a parlé aussi avec Giovanni ce midi. Mais c'est vrai que c'est un truc du coup ça m'épate pas en fait, parce que je trouve ça normal de techniquement de jouer aussi bien. Puisqu'ils ont tellement appris dans les écoles, c'est comme à l'époque nous on faisait ça en classique, donc c'était un peu normal si tu travailles ton instrument, c'est normal que tu progresses. Mmh. Donc à un moment donné, tu sais jouer, et puis il suffit que tu fasses des concours ou que tu veuilles faire ça ton métier. Bon bah a priori avec le temps et le travail, t'arrives quand même à quelque chose. Donc moi je suis pas impressionné aujourd'hui par tous ces jeunes pianistes qui débarquent. Moi ce qui m'impressionnerait plus, c'est d'entendre un truc. Que j'ai pas entendu avant, en fait. Que ce soit dans la composition ou dans le piano ou dans un autre instrument. Ça arrive, mais c'est, enfin là, je vais pas, même si tu me disais, tiens, est-ce qu'il y a un pianiste dans les jeunes, je suis incapable de te dire. Il y en a plein, ils jouent tous super, mais il y a des fois, je comprends pas, en fait, ce qu'ils veulent exactement, là où ils veulent aller, j'arrive pas à comprendre. Et je suis pas sûr qu'eux non plus, d'ailleurs.
Ouais.
Il y a un pianiste, là, qui joue en ce moment, que tout le monde, je trouve qu'il est, c'est un génie et tout, c'est sûrement un génie, mais je comprends pas en fait ce qui.
C'est qui?
Marc Prioré.
Ah oui, Marc Prioré.
Je comprends pas ce qu'il fait en fait, parce que c'est incroyable, hein, la manière. Mais j'arrive, mais je comprends pas le ce qu'il veut dire en fait, là où ça va. Et moi c'est ça dans la musique qui m'intéresse, pour ça que j'adore le classique, j'adore la composition, j'adore les mélodies. Voilà, j'ai besoin d'être touché en fait. Et voilà, c'est un peu, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a, tellement de musiciens, il y a tellement de choses, et à la fois, j'ai l'impression qu'ils jouent tous pareil, en fait. Voilà. Mais c'est dans tous les styles de musique, hein, que vous preniez de la musique manouche, de la musique du jazz, on a l'impression qu'ils font tous pareil, en fait. Ou on est très calqué sur un style et sur une influence. Mais moi, je trouve ça dangereux. C'est un peu comme si aujourd'hui tous les pianistes jouaient comme Keith Jarrett, quoi. Et c'est un peu le danger. Voilà. C'est un peu ce qui me gêne un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde connaît des choses harmoniquement et techniquement que même moi je ne sais pas, parce que Moi, j'ai appris le piano tout seul, comme à l'époque on faisait. Hein. Mmh. On se débrouillait tout seul et il fallait bien qu'on se débrouille, quoi. Il n'y avait pas de cours, quoi. Donc voilà.
Je bois du petit lait.
Oui.
Pourquoi ? Pour plein de raisons. C'est d'abord, Franck, à la technique, est saxophoniste. Et nous jouons ensemble de temps en temps. Bon, voilà. Et on a exactement le même discours. Alors, moi, j'essaye je fais parler les musiciens et je passe les choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Mais on est vraiment dans cet esprit. Et même presque. On est même à rebours parce que nous, par exemple, on aime les musiciens de la West Coast. C'est-à-dire un peu à l'os, un peu. Dit West Coast parce que, en fait, tout ça, c'est aussi des appellations un peu marketing. Hein. Les Américains, ils savent faire. Mais bon, voilà. Finalement, on se demande si les écoles n'est pas plutôt une catastrophe. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais il y a une espèce de. Oui, d'uniformisation et puis de superposition de plans.
Ouais, non, mais moi j'ai un avis très 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 clair par rapport à ça. Pour moi, de toute façon, s'il y a toutes ces écoles, c'est simplement parce que ça permet de faire manger des professeurs. Oui. C'est tout, hein. Mmh. C'est que ça, hein. C'est pas autre chose. Hein. À l'époque, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas autant de musiciens. Aujourd'hui, il y a carrément un conservatoire. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, conservatoire de jazz à la Villette. Je me suis dit, mais dans quel monde on est, quoi, en fait. On fait un copier-coller. Alors, tant mieux, il y a des. Ça fait vivre tout un monde autour de ça. Et du coup, bah, vous ressortez avec des gens qui ont 15-16 ans et qui sont déjà à des niveaux incroyables. Mais, bon, voilà, c'est un vieux discours, hein, qu'on a. Voilà. Alors après, bon, je ne veux pas faire le vieux réac ou le vieux. Mais c'est vrai que. On cherchait. On cherchait par nous-mêmes et du coup, pour en avoir parlé beaucoup de ça avec Petrucciani, du coup, je pense que l'important c'est de jouer un peu comme il disait, de jouer comme on est. Et c'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai jamais eu honte de jouer une mélodie toute simple. Aujourd'hui, quand vous écoutez des musiciens, notamment les pianistes de la génération, on va dire des années. Qui sont nés, qui ont 25-30 ans, quoi. On a l'impression que ça, c'est pas possible. Ils pourront pas jouer ça parce que pour eux, on a l'impression que c'est comme à l'époque quand on parlait de Richard Clayderman pour classique, quoi. Donc s'ils font ça, ça veut dire qu'en gros, c'est pas bon, c'est bête, c'est trop simple. Voilà. Et moi, c'est ça qui me dérange. Alors moi, justement, je fais pas exprès à contrario, mais c'est vrai que des fois, et je le fais avec Stéphane, je le fais dans mes disques. Des fois, je me régale à faire justement, bah oui, juste un arpège, une note. Et j'ai un souvenir, parce qu'on en parlait aussi beaucoup avec le regretté Sylvain Luc. On a fait un magnifique album en trio. Et cet album, c'était la démarche de cet album avec Sylvain. Voilà, Birka, c'était je me rappelle parce que des fois quand je jouais, ça arrive évidemment qu'on joue des notes et que bon voilà. Et même Sylvain le premier disait non mais là c'est trop, il faut on laisse la musique et on n'a plus besoin de prouver, quoi, c'est bon, on fait pas ça pour ça, quoi.
Il n'était pas avare de notes.
Ouais, Sylvain. mais ça dépendait, ça c'était vraiment ça dépend du sujet. Et là le sujet c'était mes compositions et c'est ça qui était génial avec Sylvain. Et donc, il portait la musique par rapport à la lecture du message, en fait. Et c'est vrai que s'il avait été là sur l'album là, que je viens de faire, No More Cheese pour ma fille, je pense que ça aurait été incroyable. Il aurait aussi. Et voilà. Et c'est un peu ça qui me manque aujourd'hui chez les musiciens. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a des superlatifs, le meilleur saxophoniste au monde, le champion du monde.
C'est lui.
Le champion du monde du piano. On entend des trucs aujourd'hui, c'est des trucs qui n'existaient pas il y a avant, mais. Et voilà, moi je trouve que c'est un danger, en fait, je pense, pour la créativité, la musique, et pour. Et puis on est en train de perdre la simplicité et beaucoup de choses, quoi.
Ouais, je pense que c'est aussi symptomatique d'une époque bavarde.
Oui.
Où on a besoin de remplir.
Mais nous aussi, on avait besoin de remplir. Moi, je dis ça, puis en même temps, il y a des disques, on pourrait dire, mais t'en mets partout. Et c'est vrai. j'ai eu aussi cette période. Et je peux l'avoir. D'ailleurs, le prochain disque qui est déjà dans ma tête, je reviens un peu aux sources avec un disque qui sera purement jazz acoustique. Et donc, oui, il y aura des notes. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne... j'essaye pas de... Ça, c'est un vieux discours que j'ai depuis des années, hein, surtout depuis Internet, là, je vois ça. On a l'impression que les gens cherchent vraiment à rendre compliqué le discours et le message. Moi, pour parler des pianistes, que je suis pianiste, il y a des fois, je trouve ça super, et puis très vite, en fait, ça me lasse, en fait. Parce que je me rends compte qu'on a l'impression qu'il a essayé de chercher quelque chose qui soit différent du voisin pour essayer de se démarquer. Et moi, je pense que c'est plutôt par la musique et par l'émotion et ce qui va jouer qui pourra se démarquer. J'ai des souvenirs, par exemple, de Michel Camilo. Mm-hmm. Bon, bah, Michel Camilo, à l'époque, c'était, enfin, moi, j'adore Michel Camilo. Aujourd'hui, qui joue comme Michel Camilo? Personne. Michel Camilo, vous mettez à la radio, on reconnaît tout de suite Michel Camilo. Aujourd'hui, vous prenez des pianistes qui ont la vingtaine, la 25 ans, vous les mettez les 10 à la suite. Je défie quiconque de reconnaître qui c'est. Sur un standard, par exemple, un standard, puisqu'ils apprennent ça dans les écoles, moi, personnellement, je reconnais pas, quoi. Et c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué par rapport à ça. Et à l'époque de Berkeley, on en parlait. Et là, j'ai vu tout à l'heure que tu avais un disque de Moog Project. Donc, Moog Project, justement, j'ai fait avec le pianiste Amory Faye, que j'adore, qui a fait la Berkeley, justement. Et quand je l'ai entendu jouer, j'ai tout de suite entendu la Berkeley. Par contre, il sait faire des choses et il connaît l'harmonie comme même moi je la connais pas. Et c'est formidable. Mais voilà. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. Donc, du coup, pour revenir au sujet principal, voilà pourquoi aussi je fais toutes ces productions et toutes ces musiques. J'ai envie de, aussi parfois de me confronter en disant, moi, voilà, ça me dérange pas de faire trois notes et puis de jouer avec Stéphane. On fait pas de solo et puis on fait juste une petite mélodie toute simple. Que ce soit pour le sujet, pour ma fille, par exemple, ou pour autre chose. Voilà, j'ai fait un disque il y a 3 ans quand j'ai perdu ma mère. C'est pareil, c'est très très simple. C'est une volonté. Il y a pas beaucoup de musiciens qui par peur, je pense, ou par, je sais pas. Voilà.
Mais, ça me fait penser à, je sais plus qu'est-ce qu'il me disait dans les invités, qui était un pianiste qui avait essayé de jouer Silence de Charlie Haden, ouais, qui est une série de triades, en fait, d'accords à trois notes, hein, tout bête. Et il avait voulu en mettre partout, dans tous les sens, et puis finalement, il s'est aperçu que s'il revenait à ce qui était vraiment écrit, c'est-à-dire d'avoir juste ces accords de trois notes, ça marchait aussi bien, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Et je trouve qu'il y a un groupe qu'on a complètement oublié, mais alors vraiment complètement oublié. Moi, je réécoute régulièrement, c'est le Modern Jazz Quartet, avec justement cette épure de John Lewis qui, c'est pas un virtuose, c'est pas un type qui va, c'est l'anti-McCoy Tyner, quoi. Mais pourtant, ça swing, c'est, vraiment. Tu voulais dire un truc?
Je voulais rebondir sur ce qui s'est dit, mais ça va dans ce sens-là, quoi.
Bon. Mais tu peux, hein, sinon. Ouais. Non, mais bon, voilà. Je pense que c'est très, très générationnel, en fait. Bon, je parle pas pour moi, qui suis le plus vieux de la soirée. Je pense qu'on est vraiment en habit brené au disque, enfin moi au 33 tours en plus, hein, donc et puis aux cassettes et puis à la radio beaucoup. Voilà, donc bien, on va écouter un deuxième titre. Où est-ce qu'il y en a un que tu as envie de réécouter plus spécifiquement? Non,
bon, non,
on va mettre dans l'ordre.
Ils sont tous.
On va écouter le numéro 2 et puis. Puis numéro 3 et puis on continuera comme ça. Jazz Libre, Radio Libertaire, on continue donc notre conversation avec notre invité Thierry Maillard pour ce double album qui est sorti le 22 mai dernier, No More Cheese. Alors, juste avant d'aller plus loin, des concerts de prévus bientôt avec cette formation.
Oui, alors là on vient de faire un concert au sud de l'Ermitage, en juin dernier. Et sinon, ça sera à partir de septembre, en fait, sur Paris. Il y aura le 18... Alors, il y a quelques concerts avant en duo, avec... Je fais pas mal de concerts aussi en duo dans des églises avec Stéphane Belmondo. Enfin, on sera le 18 septembre de mémoire au Son de la Terre à Paris. Et le 19, on sera à l'église Sainte-Marie. Et puis après, on part, on fait une tournée de un mois en Asie. On fait Corée, Chine et Japon.
Ah oui.
Voilà.
Très bien. Parlons un peu des musiciens qui sont dans cet album, dont certains sont dans d'autres précédents albums.
Oui. Stéphane Belmondo, là, qu'on vient d'entendre en duo là, avec moi, donc trompette et au bugle. Thomas Bramery à la contrebasse, et donc fidèle, qui est sur tous mes disques, Johan Schmidt à la batterie, avec qui je travaille depuis presque 20 ans maintenant. Et donc David Links au chant sur quatre chansons.
Johan Schmidt, est-ce que c'est... Non, je dois confondre avec un autre batteur qui...
Damien Schmidt, peut-être.
Oui, peut-être.
Voilà. C'est pas la même chose.
Qui est plus proche de l'esprit Magma, c'est ça, je crois.
Je sais pas, peut-être, oui. Moi, je sais pas.
Ouais, ça doit être ça. On va peut-être écouter un extrait du disque 2 qui est en quartet, là.
Ouais. Le premier, par exemple.
Oui, le premier.
Thank you.
Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. J'étais en train de viser gaiement. Oui, je voulais revenir un tout petit peu sur cette histoire d'en mettre beaucoup. Je trouve qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne définition entre virtuosité et en mettre partout. Quoi, et démonstration, en fait, c'est ça. Ouais, virtuosité, démonstration, je pense qu'il y a un peu une différence, je pense.
Sûrement, je ne sais pas. J'ai du mal à me positionner par rapport à ça. En plus, bon, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'influences musicales. J'ai commencé le jazz par la musique binaire. Donc voilà, la musique binaire, la musique symphonique, classique. Moi, je suis pas un enfant de Monk ou de Charlie Parker. J'ai vraiment commencé par la période Return to Forever, Zawinul, tous les trucs vraiment, George Duke, la musique binaire, quoi. Même pour Chick Corea, c'est plus la période Electric Band en fait que j'ai suivi. Donc voilà. Donc après, bah, suivant les styles, il y a des moments où c'est bien d'en mettre partout entre guillemets. Ça va avec le style, un peu comme la période free jazz. Bon, il y a eu ce courant. J'ai eu il y a très longtemps une petite période comme ça. On a essayé de tester ça pour voir un peu. Mais je pense que le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est essayer de dans tout ça, dans toutes ces influences, toutes ces musiques et tous ces maîtres qui ont amené tout, de toute façon, c'est comme pour la musique classique, tout a été fait, de toute façon. Quand vous écoutez Stravinsky, Bartok, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va aller composer aujourd'hui? Enfin, je veux dire, pour moi, je suis assez, ça peut paraître un peu défaitiste, mais c'est vrai que pour moi, enfin, tout a été fait musicalement, donc voilà, c'est pareil, le trio, quand vous écoutez des 4 Jarrett en trio, bon, voilà, c'est pas le genre de choses dans lequel je vais aller me mettre. Bill Evans, pour moi, c'est le roi de la mélodie, le roi de l'émotion, voilà. Donc, ça dépend, encore une fois, ce qu'on disait avec Sylvain Luc, quand on parlait de musique, ça dépend vraiment de ce qu'on fait et de qui on est, en fait. Voilà. Je pense que c'est bien de savoir qu'on peut avoir plusieurs tiroirs comme ça, qu'on puisse jouer. Bon, puis s'amuser aussi, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai pas envie de m'ennuyer dans la musique, quoi. J'aimerais pas faire toute ma vie des disques en trio avec les mêmes musiciens, le même style de musique. Je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps déjà, parce que ça m'ennuie en fait. Moi, ce qui m'intéresse justement dans la musique, dans la production, c'est après un disque, par exemple. En big band ou voilà, bah de faire pourquoi pas un piano solo. Et puis voilà, je me nourris aussi avec les différentes choses, puis ça m'évite aussi peut-être de faire une espèce de copier-coller comme on disait tout à l'heure sur la manière de jouer. Donc voilà, par exemple sur cet album là, le titre qu'on vient d'entendre, qui est un titre vraiment plus dans l'esprit, un peu plus McCoy Tyner, on va dire, dans l'esprit et dans la composition. Bah voilà, j'ai voulu le mettre. C'est une espèce de, à contrario du premier disque, qui est beaucoup plus balade, beaucoup plus néo-classique entre guillemets. Et voilà, j'aime bien en fait faire ces espèces de mélanges comme ça et de diverses influences, mais jouer tout d'une certaine manière, comme on peut des fois entendre, voilà, ou tout vite, ou tout fort, ou tout, voilà, ça c'est bon. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà.
En même temps, Bill Evans a toujours fait tout le temps là, pratiquement tout le temps la même chose.
Oui, mais encore une fois, pour moi, c'est des maîtres. Pour moi, c'est intouchable. Bill Evans, il a amené harmoniquement, mélodiquement. D'ailleurs, quand on écoute Bill Evans, on a l'impression que c'est ses compositions à lui, quoi. Et voilà, c'était le seul à savoir faire sonner le piano comme ça sur tel morceau. Il y en a pas beaucoup, hein, des pianistes qui peuvent apporter autant d'émotions. Moi, dans les vivants, il y a des pianistes comme Fred Hersch, par exemple, qui sont complètement incroyables. Voilà, c'est les extraterrestres. Voilà. Il y en a comme ça. Un tous les 10-15 ans qui voilà, Brad Meldo, évidemment. Voilà, mais il y en a pas 50. Mais ça, c'est des gens qui ont une puissance de une personnalité musicale qui est unique, voilà. Et c'est des gens qui savent tout faire. Je suis persuadé que si on met Fred Hersch derrière un synthétiseur, il sera pas bête, quoi. Voilà. C'est des gens qui ont un bagage qui est... Et bon, pour revenir à Bill Evans, voilà, c'est pareil. C'est des gens qui ont absolument tout. Ils ont tout... C'est des génies, quoi. Mmh. Et... Donc le but, je pense que c'est pas d'essayer de copier, c'est pas essayer de comprendre ce qu'il joue, de reprendre. On voit que ça maintenant sur Internet, tout le monde fait les solos de tout le monde, tout le monde reprend. C'est celui qui va jouer le plus vite, le plus fort. Il y en a, hein, il y a des espèces de champions du monde de la vitesse là, un Brésilien, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas comment il fait pour aller aussi vite au piano.
Oui, oui, Roméo, je sais quoi là, un jeune.
Ouais, il a une trentaine d'années, 35 ans, ouais. Je sais plus, Jésus, je crois, ou un truc
comme ça. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Bon, moi, je sais pas comment il fait pour essayer, mais bon, lui, il se fait plaisir, donc c'est génial. Et quelque part, c'est un peu à la différence de ce que je disais tout à l'heure, et quelque part, il a une espèce de signature. C'est vrai que, du coup, comme il a, pour moi, je sais pas comment on fait pour aller aussi vite, donc du coup, ben, il est reconnaissable. Voilà. Mais je pense que c'est ça qui est important. On parlait tout à l'heure de Mozart, mais Mozart, au bout de 3 secondes, je sais que c'est du Mozart. Voilà. Et je trouve que c'est un peu ça, que ce soit, qu'on sache composer ou pas, qu'on soit que interprète ou pas. Quand on arrive comme Bill Evans, par exemple, à, ou même Keith Jarrett. Keith Jarrett, c'était monstrueux, quoi. Keith Jarrett, il a fait toute sa carrière sur une musique qui n'était pas la sienne. Mm. Et voilà, c'est pareil. Donc pour moi, c'est des génies. Et donc ça, pour moi, c'est intouchable. C'est quelque chose qui est... Et même quand il jouait très très vite, Keith Jarrett, je l'ai vu plusieurs fois en concert, ben on a l'impression que c'était... Je sais pas comment dire, on a l'impression qu'en fait c'était doux, que c'était lent, c'était pas... Enfin, je sais pas, ils ont une force en eux, c'est comme Fred Air, je crois, c'est incroyable. Mm-hmm. Je l'ai vu en solo, c'est extraterrestre, quoi. C'est des gens, je sais pas, et pourtant ils ont deux mains comme nous tous, mais, mais ils font des choses que eux seuls... Donc, ouais, non, c'est passionnant, quoi. Et bon, voilà, je vais pas faire mon... Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui me gêne aujourd'hui. Voilà. C'est bien des écoles, mais le problème, c'est que ce serait peut-être pas mal de revenir à ce que m'avait dit Michel Graillet aussi, il y a plus de 40 ans. Il m'avait dit qu'il faudrait peut-être déjà commencer à voir qui t'es en toi, ce que t'es, ce que... Comme Petrucciani, hein, ce qu'il disait. Hein, il disait qu'il faut déjà savoir... Est-ce que disait aussi Sylvain Luc, beaucoup. Mmh. Quand Petrucciani disait « on joue comme on est », mais c'est pas faux. C'est une vérité. Mais il faut se donner les moyens de le faire, aussi. Et pas être simplement une bête de concours ou une bête de... Vous voyez, comme en classique, hein, on critique beaucoup les pays d'Asie pour les espèces de bêtes de cirque, oui, oui, là, oui. Les pianistes. Mais je pense qu'on est un peu là-dedans maintenant, oui, dans le jazz, à cause des écoles, et je trouve ça dommage.
Voilà. Ouais, et puis ça va aussi avec ce que moi, je... Une sorte de légitimité par rapport à classique, peut-être une... Le besoin de rattraper une...
Ouais, mais ça, c'est une vieille histoire. C'est vrai qu'à l'époque, oui, faire du jazz, c'était comme faire de la musette, quoi. Mmh. On était les mauvais musiciens. Et avec les classiques, étaient bon. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu ça, mais bon, après, comme maintenant, il y a des diplômes, tout le monde est prof, tout le monde... Moi, j'ai jamais voulu donner de cours, pour cette raison. Parce que je pense qu'il y a... Déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre des cours. Il y a tout sur Internet. Hein. Enfin, c'est que du... Enfin, c'est... Il suffit de... Regardez l'harmonie, regardez. Enfin, c'est incroyable sur Internet aujourd'hui, absolument.
Ah, oui,
si
oui.
On veut apprendre à jouer comme Keith Jarrett, il suffit de taper le truc et puis reproduire note à note. Bon, il n'y aura pas le toucher et le reste, mais en tout cas, les notes sont là. Mm-hmm. Donc, c'est incroyable, en fait. Bon, voilà.
Alors, autre point qui, moi, que je note depuis un certain temps, c'est la qualité d'enregistrement. Ça, c'est aussi un truc important. Il y a eu vraiment une période, je me répète souvent, mais bon, du passage de l'analogique au numérique, où au début du numérique, certains ingénieurs du son auraient mérité la pendaison. Alors que là, je trouve que depuis quand même 15-20 ans, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Une maîtrise quand même des outils modernes qui fait que le son est bon.
Ouais, ben on revient aussi beaucoup à ça. Hein. Je vois dans les studios d'enregistrement, en fait, de plus en plus, on essaie de revenir à ce truc dont on parlait, de l'analogique, quoi.
Ah voilà. Oui, carrément.
Ah bah oui, dans le numérique, maintenant, on voit que les consoles de numérique, on les laisse un peu de côté et ils essaient de trouver... Ils ont même inventé une espèce de machine, je sais plus comment ça s'appelle, le clash ou je sais plus trop quoi. C'est une espèce d'appareil en fait qui transforme le numérique en analogique. Voilà, donc on revient à l'époque, comme on va pas racheter des vieux magnétos qui coûtaient le prix d'un appartement à l'époque, avec des bandes et tout, bah, comme j'ai enregistré mon premier album, oui, enfin, les deux premiers.
Les studeurs. Hein.
Voilà. Mais donc, voilà, parce que, oui, on a envie de se rapprocher de ce grain. Bah, voilà, c'est toujours pareil. L'émotion, le grain, l'authenticité, on essaie de retrouver ça. Mais c'est un peu dans plein de choses, hein, c'est comme ça, je trouve. Hein. De toute façon, une fois qu'on est arrivé au top de la technologie, ben on se rend compte qu'il y a un mur, en fait, hein, et qu'on n'ira pas au-dessus. Hein.
Je crois que le problème à l'heure actuelle, c'est l'IA qui est en train de pointer le bout de son nez très, très fortement.
Ouais, alors il paraît. Moi, honnêtement, je n'ai aucun avis sur le sujet parce que je me refuse absolument à y croire. J'ai pas voulu. Il paraît, j'entends des fois la radio que l'IA, il est partout. Même en politique, là, j'entendais encore ce matin que. Même les hommes politiques, ils ont affaire à l'IA pour faire leur rendez-vous, leur truc, leur résumé de conférence et tout. J'ai pas trop envie de. Je crois que je vais faire mon vieux là-dessus, que je vais pas. J'ai pas trop. Mais il paraît, ouais, ça fait peur en fait. Le peu que j'ai entendu là sur la musique,
ah oui,
j'ai vu des trucs, c'est incroyable.
Hein. Extrêmement angoissant parce que il y a déjà dans les playlists type Spotify et compagnie des choses faites par l'IA, il y a même des faux groupes avec des faux noms.
Ouais, j'ai entendu parler de ça, mais c'est atroce. C'est atroce. On va devenir des robots en fait déjà.
Ah oui, non, mais c'est terrible. Moi, je suis. Voilà.
Bientôt, on ne fera plus de disques, hein, on fera sur l'IA. Si on veut du Mozart, on tape Mozart, et puis voilà.
Non, mais alors là, c'est vraiment un truc. je trouve aussi que de faire des disques maintenant, enfin, les attacher. Si tu veux dire un mot d'ailleurs à ce sujet, n'hésite pas, hein, les micros sont là. De faire un disque, ça devient presque une. Comment dire pas une épreuve, mais enfin quelque chose de. D'un peu d'aller contre l'adversité. Enfin, c'est presque un sacerdoce.
Ben ouais, surtout que les disques se vendent plus.
Ben voilà.
on continue à faire les choses. C'est un peu comme pour l'IA. Je me refuse à voir tout ça. Mais c'est vrai que si on était honnête, franc et sincère, on se dirait à quoi bon. Je crois qu'il y a encore peut-être même plus de sorties de disques. Que à l'époque, en fait.
Ah, c'est incroyable.
Et du coup, ben je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que ben, c'est notre métier aussi. On est musicien. Musicien, c'est aussi faire des enregistrements. C'est ce qui nous anime, je pense, tous. On est passionnés. Donc, voilà. Si maintenant on est résumé à plus enregistrer parce que ça se vend plus, bon, ben, à ce moment-là, on revient à l'époque de. On est juste amateur. On joue chez nous pour faire plaisir aux voisins ou à la famille et puis on fait un autre métier, hein, c'est un peu mais peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, peut-être je sais pas ce qui se passera plus tard mais non pour le moment c'est vrai qu'en fait on a l'impression que c'est comme une bataille en fait on veut pas se rendre à cette évidence et même l'IA on pourrait se dire bon bah voilà les maisons de disques tous ces trucs là Spotify et tout ça hein. Moi, je sais pas, je vais pas sur ces trucs-là.
Non, moi non plus.
Donc, j'ai jamais voulu prendre à 9,99€, là, le truc pour
moi non plus, j'avoue que non, et puis je
suis un révolutionnaire.
Je suis une vraie tanche. Je suis une vraie tanche par rapport à ça. Je sais plus, quelqu'un m'a mis Instagram sur mon téléphone, mais je l'utilise, je sais pas comment ça marche, en fait. Et je cherche pas trop, bon, je suis très nul, je sais qu'on me le reproche, mais bon. Nonobstant, des radios comme la nôtre, on a comment dire un esprit de résistance et je trouve que cette musique est une musique de résistance à l'heure actuelle.
Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, exactement. Oui, bah sinon faut faire autre chose, hein. Sinon faut élever des chèvres dans le Cantal ou je sais pas.
Bah, on leur jouera de la musique.
Oui, voilà. On mettra un piano, bah elles seront contentes.
Les meilleures
ça leur changera du chien qui leur court value. Après.
Alors, à ce propos de musique et de vache, je me, quand j'étais, j'ai une maison dans Lyon et Juste à côté de mon village, il y avait le groupe Gong qui logeait. De temps en temps, j'entendais Didier Malherbe qui jouait dans les... Et en fait, je savais qu'il était là parce que toutes les vaches couraient. Ils n'aimaient pas le soprano. Finalement, les vaches sont très sectaires.
Bah, évidemment.
Bon, alors on va écouter le numéro 2. Du 2. Numéro 2 du 2. Thank you. Jazz Live, c'est Radio Libertaire, avec notre invité Thierry Maillat. Question, vous avez fait beaucoup de prises ou pas beaucoup?
Non, non, ce que je te disais, on a fait juste une prise.
Juste une?
Pour chaque titre,
ouais. Ah oui. Mmh. Wow, bravo. Mmh. Notre attachée de presse, Sylvie Durand, qui est à nos côtés, parlait de mélodie. Oui, c'est vrai que, pour revenir encore, on va se la faire vraiment vieux con, là, ce soir, je pense. Très très mal parti. Dans tous ces nouveaux musiciens qui font des choses complexes, avec des rythmes dans tous les sens, pas très simples, je trouve justement cette complexité, arrête-moi si je dis une connerie, mais empêche ou en tout cas réduit la place de la mélodie d'une certaine manière.
Bah, c'est la peur du silence, hein, tout simplement. En fait, ils font ça parce que c'est pour essayer de trouver. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui, comme je disais tout à l'heure, tout a été fait. Donc voilà, il y a tellement de musiciens et de super musiciens aujourd'hui, à la différence d'il y a 30 ans ou 35 ans. Bon, il y avait des catégories, des niveaux comme on voit dans le sport par exemple. Mm-hmm. En musique, ça n'existe plus. Ils jouent tous super. Mm. Donc voilà, ils ont fait des études classiques à 14 ans, ils savent déjà tous. Ils rentrent au conservatoire de Paris en école de jazz, 3 ans après, ils ont 17-18 ans, ils savent déjà tout faire. Ils ont tout. Donc en fait, après, bah, il faut bien qu'ils trouvent une solution pour se départager des autres. Donc, je sais pas comment ils font, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, en fait. Sur des pianistes, notamment les pianistes.
Oui, notamment les pianistes.
Notamment les pianistes, où on a l'impression que... pourquoi, quoi? Pourquoi se compliquer? Pourquoi se compliquer? Même si ça peut être super, moi, j'entends des choses, des fois, qui sont vraiment incroyables. On parlait tout à l'heure de... voilà, par exemple, c'est incroyable, hein, ce qu'il fait, bah, c'est incroyable. Mais il y a un moment donné, en fait, où bah, il va me manquer quelque chose, en fait. Voilà, c'est plus ça, je pense. Et c'est un peu ce qu'il y avait avec Correa, avec tous ces gens-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient nous emmener dans un univers, ils savaient faire. Ils pouvaient faire. Correa, c'est aussi un bon exemple. Hein. Il y a plein de gens qui ont craché quand il a fait Electric Band parce que c'était soi-disant variétoche ou des trucs comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, moi, je trouve que ça n'a pas vieilli, quoi. Et, mais les compos, elles sont super. C'est en même temps, c'est très intelligemment fait, c'est bien écrit. Et du coup, quand c'est fait avec sincérité, ça marche, quoi. Et ça fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, bah moi je sais pas si c'est parce que c'est le nombre qui fait que bon, il faut bien sortir du lot, j'en sais rien. Mais je trouve que, enfin voilà, quoi, je sais pas. Moi je regarde de très loin là les jeunes là, parce que bon, il y a tous les jeunes qui arrivent là, les 19-20 ans, les avec les superlatifs qui vont avec le nouveau super, le nouveau machin et tout. J'écoute et bah oui, ils jouent bien. Je peux pas dire le contraire. Ils jouent super, ils jouent monstrueux, comme on dit en tant que musicien. Mais bon, je vais pas aller le voir en concert écouter ça pendant une heure et demie, quoi. Ça va vite. Voilà, il y a trop. C'est ou trop connoté dans un esprit. J'ai entendu là, il y a pas très longtemps, un pianiste. J'avais l'impression que c'était du Avishai Cohen, en fait. Je vais pas regarder, en fait. Et en fait, non. Mais c'est du Avicii quand même, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a dû s'avaler le 10 de 2008, là, qui était un grand tube. Et ils ont fait l'Olympia avec ça. C'est comme ça qu'il a percé chez Cohen, avec son pianiste, chez Maestro. Ben, c'était la même chose. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que je trouve incroyable, en fait. Ça prouve qu'on n'en est plus dans l'influence, là. On est carrément dans le. J'ai bien appris les gammes, j'ai bien appris le truc, j'ai bien compris ce que c'était. Et je vous le mets sur un disque, mais je vois pas l'intérêt, puisque ouais, c'est déjà été fait.
C'est une photocopie.
Voilà, donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si je faisais ce que je disais tout à l'heure, et en plus, ce serait mal fait, c'est comme si je faisais du Bill Evans ou du Keith Jarrett. Non seulement ce serait mal fait, puis en plus, on dirait, à quoi ça sert? Et c'est un peu ce qui me dérange. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des vrais extraterrestres qui ont une vraie identité, comme bah, pour les pianistes, on parlait de Fred Hirsch, de Brad Meldo. Bon, bah là, il n'y a pas photo, quoi. Quand vous écoutez Brad Meldo jouer des Beatles en piano solo, bah, il y a que lui qui sait faire ça. Il y a que lui. Et donc, c'est génial.
Alors moi, je suis pas extrêmement fan de Brad. Par contre, Fred, oui, je l'ai interviewé d'ailleurs. C'est pas un homme facile. Mais bon, ça se comprend aussi. Mais c'est un pianiste c'est très bizarre. J'ai sorti les avirons pour mon interview parce que, en fait, avant que je reprenne l'émission, il y avait Gérard Théronès qui était une figure quand même bien connue. Et un des premiers disques de Fred avait été organisé par Gérard. Et donc, quand je lui ai rappelé le nom, c'était très 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 mal passé. Donc,
il n'avait pas des bons souvenirs.
Non, c'était vraiment pas des bons souvenirs. Donc, j'ai un peu ramé pour. Bon, après, ça s'est pas trop trop mal terminé. Bon, mais voilà, c'était un musicien absolument fabuleux, vraiment fabuleux. Je sais plus ce que je voulais dire, donc on va écouter un truc, voilà. on continue numéro 3 et puis puis voilà, on enchaîne. Hein. C'est parti. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, on est un peu au ralenti, parce qu'il fait chaud quand même dans les studios. Sylvie a un bel instrument que j'aimerais lui piquer, ça s'appelle un éventail. Qu'est-ce que je voulais je dire Oui, alors tiens, j'ai les dates des concerts, là, puisque j'avais perdu le dossier de presse. Je vais pas y arriver. Donc le 19 juin, c'est-à-dire demain en réalité.
Oui.
Jusqu'au 29, Tour Alliance. Ah, donc demain.
Non, en fait ça non, ça non. En fait ça a été, ça collait pas au niveau des dates, donc je fais pas la tournée qui était en juin en Corée, elle se fait en septembre.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Le reste c'est bon.
Le reste c'est bon. Donc 18 septembre, le son de la Terre.
Voilà.
En duo, en trio, en quartet, en...
En quintet, le disque, avec David Lynx, oui.
D'accord. Et puis, tournée en Chine en octobre.
Oui.
Donc, pour ceux qui sont en Chine et qui écoutent l'émission en Chine et au Japon, en octobre aussi.
Voilà.
Comment ça se passe, le public chinois
Ça se passe très bien. Non, ils sont de plus en plus friands. Bon, le public chinois, c'est surtout un public de classique. Ils sont vraiment très, très friands de classique, de théâtre, de danse contemporaine, des choses comme ça. Mais là, le jazz, ça vient. Enfin, moi, j'y vais depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et là, maintenant, on voit la différence avec avant Covid. Mm-hmm. Et surtout, ce qui est super en Chine, c'est que c'est un public jeune. Ce qui n'est pas le cas en France.
Ah, alors...
Alors, de moins en moins, peut-être, mais bon...
Alors, c'est... Comment dire ?
Ça dépend des groupes.
Non, je suis... Alors, je vais y arriver. Depuis que j'écoute cette musique et que j'en fais, j'ai toujours eu un peu cette impression. En réalité, depuis toujours, c'est un public mélangé. C'est-à-dire qu'il y a pas des vieux, il y en a quand même aussi, mais là par exemple au concert de Giovanni, dans ce nouveau lieu, ce nouveau ancien lieu là, boulevard Raspail, tu connais
Je suis jamais allé.
Ah, c'est magnifique. C'était le théâtre privé de Madame Elena Rubinstein. Donc ils ont tout repris, refait, c'est vraiment très très beau. Et dans le public, il y avait des vieux, des jeunes, et il y avait même des enfants.
Ouais, cool.
Donc, et j'ai toujours connu ça. Je me souviens d'un concert de Miles en 71 ou 72, j'arrive plus à savoir. Il y avait vraiment public mélangé. J'étais à Montreux en 75, pareil. Non, c'était... Je trouve qu'il y a une constante. Justement, c'est presque le côté universel du jazz et universaliste, humaniste qu'on a dans la musique, qu'on retrouve aussi dans le public d'une certaine manière. C'est un peu les mêmes types de population. C'est pas des gros bœufs avinés avec leurs bouteilles de... qui viennent... Enfin, il y en a, mais de moins en moins. Si, une fois, j'en ai vu un concert d'Henri Texier. Je pense qu'il était arrivé par erreur, mais sinon, c'est pas vraiment le genre. Et plutôt public middle class, en tout cas, qui réfléchit un peu, quoi. C'est pas le public de Céline Dion, on va dire. Je pense à ça, parce que ça me fait penser à la critique d'Étienne Guéraud. Sur le fait qu'elle avait triché avec le fameux autotune. Je pense qu'on devrait l'écrire différemment, d'ailleurs, l'autotune. On devrait l'écrire avec un H. D'autres choses. Oui, alors, un autre projet en cours, donc tu nous disais que. En trio
Non, en quartet.
En quartet.
Avec le même quartet, en fait.
D'accord.
On va faire un album au mois de décembre, là, qui sortira au printemps, l'année prochaine. Et que des compositions aussi. et vraiment jazz, on va dire, back to basics. Voilà.
Cool.
Retour aux sources.
Une question subsidiaire, puisque en fait on parlait dans la notion d'enregistrement en live dans de bonnes conditions de studio, de pas tenter de faire des disques vraiment en live en public et avec le public.
Ça s'est pas présenté, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, ouais. Mais non, ça s'est pas présenté encore.
C'est une chose que je demande toujours aux musiciens. Mmh. Justement parce que le live est quelque chose de...
Ouais. Ah ouais, ça pourrait être sympa. Ouais.
Alors bon, tous les disques de live sont pas forcément toujours réussis, mais... Souvent, il y a une énergie, quelque chose qui est un peu du domaine du magique.
Pourquoi pas, peut-être un jour.
On prend rendez-vous.
Ok.
Sylvie, tu les...
Je prends des notes.
Tu les fouettes.
Je prends des notes.
On peut peut-être écouter un autre du CD1 en duo. Le numéro 3. On y va.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, avant de passer la parole à l'émission suivante, Epsilonia, on arrive sur les 22h. Thierry, quelque chose que tu aurais envie de dire plus spécifiquement, ou une question que je n'aurais pas...
Bon non, je crois que j'ai beaucoup dit hein, déjà, j'en ai dit beaucoup, hein. Non, je vois pas, c'était très sympa, merci de m'avoir accueilli.
Non, c'est un vrai plaisir, je voulais le faire, et je sais pas pourquoi, ou... Oui, on avait essayé,
et c'était pas, on n'avait pas réussi.
Ouais. Ben voilà, comme quoi.
Parce que j'avais bien aimé ce disque en
big band. Hein.
En big band. Alors moi, j'ai une passion pour les big bands. Mmh. Et, alors, je suis pas un fanatique, non, c'est pas ça. J'aime beaucoup Frank Zappa. Mais je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai toujours bien aimé. Mmh. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec tout ça. Hein. Mmh. Moi, j'ai 71 ans, donc je les ai vus démarrer, tous ces petits jeunes. et j'ai trouvé que c'était très, très intelligemment fait.
Ah, merci.
Parce que justement, c'était pas ce dont on déplore depuis 2 heures, une copie ou une redite ou quelque chose de...
Oui, bah non, c'était vraiment le but, hein, c'était de puiser mes influences depuis l'âge de 11-12 ans où j'écoute du Zappa, et puis de faire dans l'esprit d'eux, voilà, c'était ça le but.
Oui, c'est ça, ouais. Voilà,
dans l'esprit d'eux, mais surtout pas... copié, ou même, j'ai même pas fait de citation ou quoi que ce soit, et j'ai surtout pas voulu, quand j'ai écrit cette musique, réécouter du Zappa, pour éviter justement de tomber dans la citation, dans la redite. Donc voilà. Ouais, je suis très 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 content de cet album, c'était une belle aventure humaine en plus, avec plein de super musiciens, Chris Potter et tout, enfin, il y a eu vraiment des belles rencontres.
Baptiste Herbin.
Ouais, aussi.
Et puis Camille Berthaud,
ouais.
Que j'étais un des premiers interviewés. Ben voilà, ça, typiquement, quelqu'un qui a été, comment dire, catapulté par Internet.
Mmh. Oui, ben oui. Comme quoi, c'est très bien.
Comme
aussi.
Quoi, de temps en temps.
Ouais, ouais.
Bon. Merci en tout cas.
Merci.
Sylvie, tu veux dire quelque chose à l'antenne? Non.
Merci de nous recevoir et surtout merci de maintenir cette belle émission avec brio chaque semaine, enfin chaque 15 jours, mais puisque tu alternes classique et jazz, donc double casquette. Et c'est formidable de laisser un temps de parole aux artistes, de passer la musique, d'être là, quoi, c'est fondamental. Et de faire découvrir aux auditeurs qui ne peuvent pas toujours se déplacer au concert ou leur donner envie d'y aller, si, pour ceux qui peuvent. Et qui...
Oui, parce que je trouve en plus que les tarifs sont de plus en plus élevés, ce qui n'est pas évident.
Il y a
vraiment une sélection par le fric, un peu... oui, bah merci. Je suis très touché parce que des fois je me dis, oh, je suis fatigué, j'en ai marre, je vais arrêter. Et puis bon, cette musique me nourrit depuis toujours, grâce à mon père d'ailleurs, hein, qui n'est plus là depuis longtemps, mais à la maison on écoutait Errol Garner, Dizzy, Monk, bah, voilà, c'était, ça fait partie de... Moi, par contre, ça fait vraiment partie de mon ADN, mmh. tout en étant avec Beethoven, quoi. Il y avait un peu les deux. Et puis bon, il y a eu évidemment les Beatles, enfin toute la pop, quoi. Mmh. Et puis des groupes importants comme Soft Machine. Alors, je cite ça parce que Eric Barret, malheureusement, qui nous a bêtement quitté, qui était vraiment de la même génération. Musique, on avait eu vraiment les mêmes influences, quoi. On retrouve ça, quoi. C'est vraiment, rigolo. Bon, j'espère. Ah oui, juste ce que je voulais, avant que j'oublie. Donc, merci pour le compliment. C'est vrai que c'est une radio où on a le temps de passer les morceaux en entier et puis de faire acte un peu de résistance face à l'adversité. Surtout en ce moment. Hier, on avait l'Assemblée Générale, justement, où on parlait des notions de financement des radios libres, enfin, associatives, plus exactement. Donc, on a été reçu à l'Assemblée Nationale, avec les syndicats représentatifs, donc tout le monde est un peu vent debout. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important. Donc, dernier point, avant d'écouter un autre, finir en musique, j'aurais bien vu celui-ci, justement, en public. ça aurait été, je pense, un bon truc. Bon, Thierry Maillard, merci beaucoup pour ce double album, dont je rappelle le titre, No More Cheese, qui est un album émouvant, pour toutes les raisons que tu nous as expliquées, et qui est un très bel album. Qui peut être un peu sensible au point de faire approcher les larmes, pourquoi pas, voilà, et puis après tout, ne pas s'en priver non plus. Et puis, bah, rendez-vous pour le prochain, prochain opus, on essaiera de trouver une date et de, voilà, mais pas avant septembre.
Ah non, de toute façon...
Mais bon, voilà, je le dis parce que là, ça va être la période estivale, et donc on a encore un dernier rendez-vous avec le réalisateur du film de Michel Portal. Mmh. Et après, ce sera les vacances avec sans doute des rediffs ou d'autres choses. Voilà, merci. Tu nous mettras « What you want ». Et Fraternity Swing, donc rendez-vous pour début juillet pour donc ce rendez-vous avec le réalisateur Benjamin Delattre, s'il s'appelle, sur Michel Portal. Et puis ensuite, nous verrons. Voilà. Bye bye. Merci.
Merci.
Thierry.
Merci
à beaucoup. Bientôt.
Radio Libertaire 89.4
Epsilonia.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
J'ai oublié le nom de la radio.
Radio Libertaire.
C'est Epsilonia. C'est Epsilonia l'émission.
Sa diffusion porte en germe son effacement progressif.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax.
Radio Libertaire, la voix sans dénimée de la Fédération anarchiste.
Thank you.